FM, midi 15h, le 12-15, Edwige Chevrillon.
Peut-on dire que Barack Obama a désormais gagné? Le Parti démocrate a-t-il enfin son candidat? François Bujon d'Étang, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été ambassadeur de France à Washington, vous présidez la filiale française d'une grande banque américaine et vous connaissez très bien les États-Unis où vous avez évidemment séjourné pendant longtemps. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça y est, Barack Obama a gagné?
Oui.
Oui, oui. C'est sûr?
Oui.
Parce que alors pourquoi Hillary Clinton refuse de reconnaître sa défaite?
Elle refuse de la reconnaître depuis déjà quelques semaines. Et en réalité, on pouvait dire depuis déjà quelques semaines que Barack Obama avait gagné, puisque ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a plus aucune chance arithmétique qu'Hillary Clinton comble son retard en matière de délégués. On le savait, même si elle avait gagné toutes les primaires avec 100% des voix, toutes les dernières primaires, elle n'aurait pas pu combler son retard.
Et là, si jamais, la question de la Floride, vous savez, oui, bon, comme un gros état, on sait que la Floride, la Dakota n'avait pas respecté le timing du Parti démocrate, donc les voix normalement n'étaient pas comptées. Elle a gagné notamment en Floride, donc finalement c'est des demi-voix. Est-ce que ça aurait changé la donne éventuellement?
Écoutez, il y a des règles. Ouais. On joue dans n'importe quel jeu en respectant les règles. En l'occurrence, les règles sont édictées par le Parti démocrate et c'est le Parti démocrate qui avait disqualifié la Floride et le Michigan,
oui,
d'ailleurs.
Michigan, oui.
Parce que ces deux États n'avaient pas respecté le calendrier que le Parti démocrate voulait leur imposer et avaient décidé de faire des primaires beaucoup plus tôt dans le calendrier de la campagne. Ils ont donc été disqualifiés.
Alors, on se souvient juste quand même de Al Gore qui dit lui-même, je suis le seul candidat qui est perdu à la présidence, alors que j'ai été élu avec le plus grand nombre de voix. George Bush qui l'a emporté.
Désormais, Hillary Clinton pourra dire qu'elle a perdu les élections primaires du Parti démocrate tout en ayant gagné la Floride. Car en effet, en Floride, les primaires ont quand même eu lieu.
Décidément,
même si,
la Floride.
Même si elle ne comptait pas, Hillary Clinton a eu une majorité des voix. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que la primaire ayant été disqualifiée, les candidats n'y ont pas véritablement fait campagne. Dans le Michigan, par exemple, où Barack Obama pouvait légitimement entretenir quelques espoirs, il n'a pas fait campagne du tout et il ne s'est même pas inscrit sur le ticket. Aujourd'hui, pour dire, comme le fait Hillary Clinton, qu'elle a gagné la Floride et le Michigan et qu'il faut lui restituer les délégués de ces deux États, il faut quand même une certaine dose de mauvaise foi.
Ah, ben voilà, au moins ça s'est dit, hein, François Bujon-Létang. Alors, maintenant, à votre avis d'abord, pourquoi a-t-elle perdu? On avait le sentiment, notamment qu'avec l'appui de son mari, Bill Clinton, on avait le sentiment qu'elle était programmée pour l'emporter. Est-ce que ça veut dire que les Américains ne veulent pas d'une femme?
Non, je ne crois pas que ça veuille dire cela. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas, d'Hillary Clinton comme candidat. Date du Parti démocrate. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas d'une femme, et je ne pense pas que ce soit sur ce terrain-là qu'elle ait perdu l'élection. Non, je pense qu'en réalité, elle ne l'a pas tant perdue que Obama l'a gagnée. C'est comme ça qu'il faut le voir, puisque c'était une course extrêmement serrée, qu'il l'a gagnée quand même d'une courte tête, qu'elle peut dire aujourd'hui, comme elle le fait, qu'elle a eu 18 millions d'électeurs qui se sont prononcés pour elle. Elle a fait effectivement une campagne très, très vaillante, et elle a gagné dans un certain nombre de grands États.
Oui, on reviendra là-dessus, parce que c'est très important, effectivement, des grands États. Oui.
Mais elle a perdu fondamentalement parce qu'elle ne représente pas, contrairement à Obama, quelque chose de nouveau. Il y a un sens, une impression de déjà-vu avec les Clinton. Et au fond, vous disiez qu'elle avait son époux à ses côtés qui était un atout. Ça a été un atout sans doute, au début sans doute. Et puis ça s'est vite transformé en désavantage en réalité. Parce que face à un Obama qui incarne quelque chose de complètement nouveau, qui a un langage nouveau, qui incarne l'avenir, qui a 46 ans, qui est un candidat du 21e siècle, elle ramène une sensation des années 90, de l'administration Clinton et du déjà-vu. Mmh. Et finalement, Bill, on l'a vu dans un certain nombre de cas, s'est transformé, pour utiliser le langage américain, en liability, alors qu'il aurait dû être un asset.
Ouais,
il a été une arme à double tranchant. Il a été très visible, il a fait un peu de tapage, il n'a pas toujours eu des interventions très heureuses, et je ne suis pas du tout sûr que la présence de Bill Clinton aux côtés d'Hillary ait été finalement pour elle, tout dans tout, un atout.
Alors vous dites Barack Obama a gagné, mais pourtant hier, Hillary Clinton, elle n'a pas voulu reconnaître sa défaite. Elle a dit je vais réfléchir, je pense d'abord à mon parti et à mon État, enfin à mon pays, pardon. Pourquoi est-ce qu'elle refuse toujours de dire qu'elle a perdu? Parce que c'est des négociations en cours, notamment financières. C'est pour qu'elle puisse négocier éventuellement un ticket, son poste dans le futur.
C'est possible, c'est même probable. Elle fait ses calculs. Elle se demande ce qu'elle peut demander en échange de sa renonciation définitive. Elle a perdu. L'arithmétique, cette fois-ci, est définitive. Et maintenant, Barack Obama semble avoir, d'après les derniers chiffres que j'ai vus, recueilli le chiffre fatidique des 1288 délégués qui sont nécessaires pour avoir la majorité à la convention. Il peut donc légitimement dire qu'il a gagné, qu'il est le candidat du Parti démocrate. Il l'a d'ailleurs dit hier soir à Saint-Paul,
une
ville qu'il avait choisie de façon très symbolique, puisque c'est là que se tiendra, dans les tout premiers jours de septembre, la convention démocrate. Il a gagné, mais elle n'a pas perdu. Alors nous voici donc dans une situation très paradoxale, où elle se donne quelques jours pour réfléchir, pour monnayer sans doute son ralliement, pour discuter avec les équipes de Barack Obama de ce qui pourrait lui être confié dans une éventuelle administration Obama. Elle essaye de faire durer le suspense. Ouais. Je ne pense pas qu'il puisse durer bien longtemps, parce que vous allez voir dans les jours qui viennent, une série de grands délégués et de grands caciques du Parti démocrate se rallier massivement cette fois-ci pour Barack Obama.
Ouais, on a vu que l'ancien président américain Jimmy Carter justement disait qu'il allait se rallier à Barack Obama. Il est vrai que sa déclaration d'hier a un petit peu choqué les analystes, les médias. Ce côté à vouloir s'obstiner, alors vous me direz, c'est son caractère.
Caractère, c'est une battante, elle ne veut pas concéder la défaite. Mais effectivement, cela commence à devenir légèrement indécent, car on ne sait pas exactement ce qu'elle veut, ni ce qu'elle cherche. Bill Clinton, le premier, avait évoqué l'idée qu'elle puisse figurer sur le ticket comme candidate à la vice-présidente aux côtés de Barack Obama.
Et lui,
Obama.
Il a parlé à l'imparfait du reste de la campagne de Hillary Clinton, comme quoi c'est presque lui qui a reconnu la défaite de sa femme avant sa femme.
Oui, absolument. C'est même lui qui a dit il y a quelques jours qu'il participait à sa dernière réunion électorale. C'est curieux. Alors, l'idée qu'elle puisse figurer sur le ticket est une idée qui mérite qu'on s'y arrête. Parce que d'un côté, beaucoup d'analystes pensent que ce n'est pas une bonne idée et que c'est peu vraisemblable. La campagne a été, comme vous le savez, très acrimonieuse entre les deux pendant longtemps. Il n'y a aucun amour perdu entre Barack Obama et Hillary Clinton. Et ce serait un ticket malaisé. C'est une raison qui n'est toutefois pas suffisante. Il y a des précédents dans l'histoire. Il y en a un auquel on se réfère souvent parce qu'il s'applique assez bien. C'est celui de 1960, dans lequel John Kennedy, qui n'aimait pas le sénateur Lyndon Johnson, qui avait été son adversaire dans les primaires, a quand même proposé à Johnson d'être son colistier.
Et on sait que ça a marché. François Bujon-Létang, on marque une pause, on se retrouve juste après.
BFM, midi 15h, le 12-15, Edwige Chevrillon.
Vous êtes toujours dans le 12-15 avec mon invité, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, François Bujon-Létang. François Bujon-Létang, vous disiez, on parlait du ticket maintenant, peut-être c'est la négociation en cours. Vous faisiez référence à ce qui s'était passé en 1960, lorsque John Kennedy a finalement fait un ticket avec son adversaire démocrate à l'époque, qui était Lyndon Johnson. Bon, vous me direz, ça leur a réussi. Là, la question est quand même de savoir qu'est-ce qu'il apporte, parce que Barack Obama, lui, il est noir. Alors, est-ce que les Américains sont prêts à voter pour un noir? Et surtout, c'est qu'on l'a vu, Hillary Clinton, elle a gagné dans les grands États. On en disait un mot tout à l'heure. Et ces grands États, c'est une population classe moyenne blanche. Il y en a beaucoup qui ne vont pas voter, qui l'ont déjà dit, qui ne voteront pas Barack Obama.
Oui, c'est certain. Barack Obama a montré dans l'analyse de son électorat un certain nombre de faiblesses. Il lui manque certaines catégories d'électeurs. Il a pour lui, tout le monde le sait, les jeunes, les intellectuels, ce qu'on appelle l'école blanc, c'est-à-dire très souvent les cadres d'entreprise. Mais il n'a pas les personnes âgées. Il n'a pas l'école bleue, c'est-à-dire les ouvriers. Il partage avec Hillary Clinton les hispaniques. Il peut les rallier aisément, mais il lui manque un certain... Il lui faut donc trouver un colistier qui lui amène cette partie-là de l'électorat. Hillary Clinton pourrait lui en apporter certains, il n'y a aucun doute, mais encore une fois, c'est loin d'être l'hypothèse privilégiée. Il lui faut trouver quelqu'un qui lui permette de compenser, si j'ose dire, le fait qu'il attire surtout les électeurs haut de gamme. Et il lui faut quelqu'un
qui représente cette middle class américaine.
Qui représente la middle class américaine, qui représente également les personnes âgées, j'insiste là-dessus, puisque l'électorat est un électorat arithmétiquement de plus en plus important. Il y a quelqu'un à qui on pense tout de suite, c'est John Edwards, par exemple, qui était déjà le colistier de John Kerry et qui est un sénateur de Caroline. John Edwards, par exemple, pourrait apporter l'électorat working class.
C'est quelqu'un qui a quel âge ?
Il n'y a aucun doute. Il est jeune aussi.
Ouais.
Il est jeune aussi, il a une jeune cinquantaine.
Ouais. Vous faisiez donc la comparaison avec Kennedy, qui était le premier catholique.
Kennedy n'était pas le premier candidat noir, il était le premier candidat catholique. Aujourd'hui, ça nous paraît extraordinaire, mais en 1960, il n'y avait jamais eu de candidat catholique à la présidence des États-Unis. Il a d'autres similitudes avec Barack Obama, John Kennedy. Il était un sénateur dans son premier mandat. Il était relativement inexpérimenté en termes d'expérience gouvernementale. Et il avait 44 ans. Barack Obama en a 46.
Et il était beau, c'est le cas aussi de Barack Obama.
Il était très charismatique et c'était un orateur extraordinaire. Il avait en face de lui un candidat qui était Lyndon Johnson et qui, à l'instar d'Hillary Clinton, était le candidat de l'expérience. C'était un sénateur chevronné, c'était le chef de la majorité démocrate au Sénat. Il pouvait incarner l'expérience face à la jeunesse. Et c'est pourquoi cette analogie vient spontanément à l'esprit.
Ouais, donc pour vous, le ticket de choix, entre guillemets, serait plutôt Barack Obama et John Edwards ?
Ce serait en tout cas Barack Obama avec un candidat qui peut apporter l'expérience et qui peut certainement apporter... Un appel très fort dans la classe, dans les classes laborieuses et dans les personnes âgées.
L'enjeu pour Barack Obama, on l'a dit souvent, c'est qu'en fait, c'est de faire voter notamment les jeunes, notamment des gens issus de la minorité visible, comme on dit chez nous en France, qui jusqu'à présent n'ont jamais voté.
Oui, alors il a réussi cela, et il a réussi un certain nombre de choses dans cette campagne qu'il faut souligner. Il y en a une qui est spectaculaire, et dont vous savez très bien qu'elle est très importante dans les élections américaines, c'est qu'il a levé énormément d'argent.
Et le chiffre
est tout à fait impressionnant, puisqu'il a réussi à lever, à lui tout seul, 240 millions de dollars, ce qui est le trésor de guerre le plus considérable jamais amassé par aucun candidat à la présidence. Alors quand on dit, il est jeune, il est noir, il est inexpérimenté, eh bien, il a quand même démontré une formidable capacité de mobilisation. Et beaucoup de gens vous le diront, la campagne de Barack Obama a été un modèle d'organisation. Elle a très bien utilisé l'Internet et les nouvelles techniques de l'Internet. Trésor de guerre. Comparez le 240 millions de dollars, se compare en réalité aux 190 amassés par Hillary Clinton et aux 80 seulement levés par John McCain. C'est un résultat tout à fait spectaculaire. Et cela veut donc dire qu'il a une forte capacité de mobilisation et un grand talent d'organisation.
Oui, finalement, il n'est pas si inexpérimenté que ça, visiblement.
Il est jeune et l'expérience s'acquiert avec les années, mais disons qu'il est très prometteur.
Alors, on va quand même dire un mot de ce qui se passe du côté des Républicains. C'est vrai qu'eux, ils n'ont pas perdu de temps. Ça a été beaucoup plus rapide et expéditif. C'était quand même une surprise. John McCain, lui, on l'a dit souvent, là encore, son problème, c'est qu'il est, il n'est pas conservateur. C'est plutôt un républicain centriste.
Oui,
donc lui, il faut qu'il aille à la droite. D'où un peu la réconciliation avec George Bush, du reste qu'on a observé, il a fait un mouvement vers George Bush. Lui, il faut qu'il trouve un ticket plutôt sur sa droite, c'est ça son problème.
Logiquement, mais il y a en réalité deux stratégies pour John McCain et deux hypothèses. D'abord, il faut dire qu'il y a 9 mois à peu près, tout le monde considérait que la carrière politique de John McCain était terminée et que c'était un candidat qui n'avait aucune chance. Voilà donc une résurrection absolument spectaculaire puisqu'il y avait des candidats républicains très intéressants et qu'il a très vite et de façon très convaincante emporté la victoire. Alors vous le savez, il y a une raison technique à cela, c'est que dans les élections primaires républicaines, la règle du parti républicain, c'est que celui qui arrive en tête dans une élection primaire emporte tous les délégués, alors que les démocrates pratiquent une distribution proportionnelle des délégués en fonction du pourcentage. Donc ceci a facilité une victoire rapide dans le camp démocrate. Mais enfin, John McCain a fait une campagne brillante et il a démontré une vitalité, un appétit de pouvoir, une expérience, chance tout
malgré,
à fait.
Malgré son âge, lui, pour...
Il a 72 ans, ce qui fait de lui le candidat le plus... Enfin, il aura 72 ans plus exactement au moment de l'élection, ce qui fait de lui le candidat le plus âgé dans l'histoire des élections récentes. Mais il est en excellente santé. D'ailleurs, il aime à amener avec lui dans les réunions électorales sa vieille mère, âgée de 95 ans, qui est dans une forme éblouissante, pour démontrer qu'on a de bons gènes dans la famille. Mais c'est un candidat très redoutable, et la victoire d'un candidat démocrate sur John McCain n'est pas du tout assurée. La campagne va être à cet égard très très intéressante. Alors c'est un candidat en effet plutôt libéral, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire plutôt centriste ou plutôt à gauche pour un républicain. Il est détesté d'ailleurs par la frange la plus conservatrice de l'électorat républicain, qui le considère comme
un dangereux... C'est quand même bien tenace, parce que c'est elle qui a élu George Bush deux fois.
Oui,
hein.
Qui le considère comme un dangereux gauchiste, mais c'est un personnage sui generis, qui a beaucoup de personnalité, qui en effet a pris des positions plutôt libérales sur un grand nombre de problèmes de société, mais qui en termes de politique étrangère défend, il faut s'en souvenir, des positions qui sont finalement assez proches de celles de l'administration Bush. Il est pour tenir la dragée très haute à l'Iran, c'est lui qui est l'auteur de la célèbre formule disant qu'il ne faut pas se trouver dans le dilemme où c'est un Iran doté d'armes nucléaires ou bien c'est un Iran que l'on bombarde. Il a défendu la guerre d'Irak, il est partisan de la guerre d'Irak, il est hostile à un retrait précipité, il a même été en faveur de l'envoi de renforts décidé par George Bush en Irak, il était pratiquement le seul candidat républicain à avoir publiquement soutenu le président Bush. Donc il a une position très forte. Alors il a deux solutions. L'une, c'est effectivement de trouver un candidat à la vice-présidence qui ferait campagne à ses côtés, qui viendrait de la droite conservatrice, de façon à compenser le handicap qu'il a de ce côté-là. L'autre, c'est au contraire de faire l'impasse sur la droite conservatrice, de considérer que l'heure de la droite conservatrice est passée, que l'heure des néo-conservateurs
du
est passée,
en fait, c'est pas...
que l'avenir est au centre, et de prendre un candidat qui serait, comme lui, plutôt centriste ou plutôt libéral pour un républicain. On prononce par exemple fréquemment le nom du sénateur Chuck Hagel du Nebraska, que je connais très bien, qui est un des républicains les plus modérés et les plus éclairés en matière de politique étrangère.
Et pour vous, visiblement, c'est au-delà encore, c'est ce ticket qui vous paraît le plus vraisemblable.
C'est une possibilité.
Pour contrer Barack Obama.
C'est une possibilité, et ce serait un plus grand danger, je pense, pour Barack Obama.
Ouais, toujours un pronostic, allez, Barack Obama ou John McCain. Vous avez deux mots,
difficile.
Oui, non.
Oui. C'est très difficile à dire. Je les mets vraiment à 50-50 à ce stade. Et n'oubliez pas que la récession fait que l'économie jouera en octobre-novembre un rôle majeur dans la campagne présidentielle.
Eh bien, on aura certainement l'occasion d'en parler. Merci beaucoup de votre analyse, de vos décryptages, François Bujon-Létang. François Bujon-Létang, donc ancien ambassadeur de France aux États-Unis, aujourd'hui président de Citibank en France. Merci.